Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'ils se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement? Comment faire concrètement et dans quel ordre? Quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur? Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer.
Cet épisode est une rediffusion d'un épisode de Sismic enregistré le 2 mars 2021. Donc Sismic, c'est mon autre podcast qui existe depuis maintenant 6 ans. Et c'est une conversation avec Marie Eklund, qui est une figure de l'entrepreneuriat en France, qui est spécialisée dans le financement des startups et cofondatrice notamment du fonds d'investissement Daphni. Fin 2020, elle a lancé un nouveau fonds d'investissement sous le nom de 2050 qui a pour objectif de contribuer à l'émergence d'un monde plus fertile. Donc on commence à connaître le diagnostic de l'urgence écologique. Beaucoup désormais sont d'accord, en France au moins, avec l'idée qu'il faut remettre à plat nos modèles si on veut avoir une chance d'éviter de nous enfoncer plus en avant dans un dérèglement qui deviendrait hors de tout contrôle. Mais comment on fait? Donc la question se pose à tous les niveaux puisqu'il faudrait quasiment tout réinventer. Et la question vaut bien sûr pour les entreprises, puisque c'est le sujet de ce podcast, et pour ceux qui investissent, pour les soutenir et pour les faire grandir. Peut-on concilier profit, croissance d'un acteur économique et transition écologique? Et puisque l'argent est là à investir, vers quoi le diriger et de quelle manière pour que notre économie commence enfin à changer? Voilà les sujets dont on parle avec Marie dans cet épisode, sans langue de bois, et c'est passionnant.
Reboot.
Bonjour Marie Eklund.
Bonjour.
Alors, tu es investisseuse française spécialisée dans le financement de start-up. Tu es des figures de ce petit milieu de la French Tech, enfin plus si petit que ça, mais tu as brièvement, pour l'anecdote, été présidente du Conseil national du numérique.
Ouais.
Tu as une formation de mathématicienne, d'informaticienne. Tu as commencé ta carrière chez JP Morgan à New York et rapidement, il y a 20 ans maintenant, en 2000, ton parcours s'est réorienté vers le numérique et le secteur de ce qu'on appelle le capital risque, donc de l'investissement. Je me permets de faire cette petite bio, hein, mais je vais se développer.
Pour l'instant, c'est tout bon.
Voilà. Et en 2015, tu as cofondé Daphni, qui est ton propre fonds, qui a connu, je crois, un beau succès. Et très récemment, tu as créé un nouveau fonds qui se veut novateur, une fois de plus, et qui se nomme 2050, et dont la mission, qui est affichée en première page du site internet, est « Pour un avenir fertile, 2050 donne les moyens de penser et construire demain ». Donc forcément, ça me parle. Donc, je pense qu'on a plein de sujets à discuter ensemble et je suis ravi que tu sois là. Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce qu'il est important de connaître sur toi ou de ton parcours sans faire trop long pour comprendre d'où tu parles aujourd'hui?
Je pense que la seule chose que je rajouterais, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse et ouverte sur le monde. C'est-à-dire que là, tu m'as fait mon parcours très professionnel et donc on peut avoir l'impression que je suis quelqu'un qui est, tu vois, très scientifique, ce qui est le cas, mais je suis pas que ça. Et c'est quelque chose qui m'a porté sur, et qui continue d'ailleurs à me porter sur toute ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai dirigé brièvement aussi un label de musique. Je suis tout ça. Et c'est ce que j'aime dans le monde, c'est de côtoyer différents écosystèmes, différentes cultures. J'ai grandi un peu au Canada aussi. Donc, tout ça m'a forgé. Et en fait, je pense que c'est l'une des clés de ce que je suis, c'est-à-dire d'avoir besoin finalement de ces rencontres de monde, de ces rencontres de personnes, de ces rencontres de culture. C'est ça qui me fait avancer, en fait. Voilà, donc les mathématiques et l'informatique, c'est mon outil de modélisation, d'action. C'est mon moteur de compréhension du monde et d'action, hein, et ce moteur-là, parce que l'informatique, moi, ça m'a appris à faire, ça m'a appris à itérer, ça m'a appris à me tromper, ça m'a appris à recommencer, ça m'a appris à créer beaucoup. Mais j'avais besoin aussi des mathématiques pour, à l'intérieur de tout ce savoir ou peut-être toutes ces émotions, toute cette intelligence que je captais, d'essayer d'en créer un espèce d'expérience holistique, de savoir holistique et de me donner un peu une boussole à l'intérieur de tout ça. Voilà.
Bah, merci de préciser. C'est vrai que de toute façon, c'est à chaque fois, on peut pas résumer une vie ou toute une personne avec les quelques lignes qu'on va trouver sur les bios. Donc, mais oui, effectivement, tu fais beaucoup de choses et t'as fait beaucoup de choses et là, tu te réorientes vers quelque chose d'encore nouveau.
Ouais. En fait, je le précise parce que je trouve qu'on est dans un monde qui pousse à la spécialisation. Et moi, j'ai lutté toute ma vie contre ça parce que je pense que pour arriver justement et de plus en plus à comprendre ce qui nous arrive, on a besoin d'être, de sortir de ça. C'est-à-dire de sortir de cette, de ces œillères, de cette surspécialisation, de cette séparation, de ces silos, pour au contraire arriver à penser le monde dans le temps et penser le monde dans sa globalité. Donc c'est pour ça que j'insiste en fait. C'est pas pour dire que j'ai fait plein d'autres choses, c'est pour dire que ça me nourrit tout ça. En fait, dans mon parcours professionnel où j'utilise les maths, l'informatique, le numérique, où j'investis dans les startups.
Bah, tu verras que c'est exactement le... Ça me parle vraiment, on a déjà parlé un petit peu avant, parce que c'est exactement le projet ce que j'essaie de faire avec le podcast. Et d'ailleurs, je me suis posé souvent la question de savoir est-ce qu'il fallait pas se spécialiser, tirer des conclusions finalement, même après 3 ans de diagnostic. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher, justement, la variété des points de vue. Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui, mais il y a quelques grandes thématiques que j'aimerais aborder, notamment par rapport un peu à tout ce que tu viens de dire, et puis aussi ton actualité, ton nouveau projet. Pour faire court, ça sera ta vision, en gros, de tous les enjeux actuels, le lien aussi qui me questionne beaucoup entre la finance, l'économie et ses enjeux, la nature et l'ampleur des changements qui, selon toi, vont venir, et puis comment on fait concrètement pour est-ce qu'on peut réformer le système de l'intérieur. Et je crois, enfin, tu viens de le dire, mais je l'avais déjà lu aussi sur toi, que tu es adepte de ce qu'on appelle un peu une pensée systémique, une pensée large, connexe, et tu fais partie de ceux qui vont aimer gratter la surface des choses et accepter, plonger dans la complexité. Et donc j'imagine que ton nouveau projet, dont on va parler plus en détail après, répond à une partie de l'analyse que tu fais des enjeux actuels, puisque donc ton but avec 2050 est de contribuer à construire une société plus durable, donc avec, j'imagine, pour horizon 2050. On peut commencer par ça. Quel est le regard que tu portes sur notre époque et sur ses enjeux, et quelle est ta grille d'analyse évidemment il y en a plein comme tu l'as dit, mais la grille d'analyse que tu préfères utiliser pour regarder la situation dans laquelle on est actuellement et avec les défis globaux qu'on connaît.
Ah. L'une des choses qui m'a manqué et que j'essaye de construire, hein, et que j'essaye de le construire depuis le Conseil national du numérique, c'est de savoir vers quoi on veut aller. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile de comprendre un certain nombre des problèmes, d'essayer d'analyser les causes de ces problèmes-là, de voir comment, si on continue comme ça dans le futur, ça va évoluer. Je trouve que ce qui est très compliqué à faire et ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, de mieux, et vers quoi on se dirige. C'est-à-dire que ce qui me manque, moi, et ce que j'essaye de faire, c'est une modélisation de là où on veut aller. Souvent, on considère que quand on investit, on accompagne des tendances. Tu vois, et donc souvent, les gens me posent la question: est-ce que l'intelligence artificielle, ça va détruire tous les emplois avec la robotisation? Est-ce que la blockchain va complètement disrupter l'industrie financière? Est-ce que... Bon. Et ça, c'est de la prospective, mais c'est de la prospective qui oublie une chose qui est extrêmement capitale, qui est que, en fait, ça dépend ce que nous, on en fait. C'est-à-dire que c'est très autoréalisateur, en fait. Oui, si tout le monde finance et travaille pour des startups ou des entreprises qui, de manière générale, robotisent tout, mettent de l'intelligence artificielle partout, etc., il y a plus de chances qu'on arrive à un équilibre où il y a de moins en moins d'emplois pour les humains que pour les robots, etc. Donc, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Il y a une intentionnalité derrière tout ça. Et du coup, il n'y a pas de ligne de logique, en fait, en se disant bon ben voilà, donc ça c'est aujourd'hui la tête du monde et donc je tire une ligne comme ça et ça va se produire comme ça, parce que ça implique, quand on a ce raisonnement-là, que les gens vont continuer à se comporter comme ils se comportent maintenant, ou que on va parce que les technologies existent, les utiliser jusqu'au bout. Enfin, donc il y a plein d'hypothèses derrière qui, moi, ne me vont pas. Et la vraie question que moi je me pose au quotidien, c'est mon action à moi, sachant ce que je sais, je veux l'orienter vers quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas de la projection du passé que j'essaye de faire, c'est plutôt de me conceptualiser un futur dans lequel j'ai envie de vivre. Voilà, quel serait un bon équilibre ? C'est quoi un futur fertile ? Et d'essayer d'orienter mon action à construire ça. Voilà. Et donc du coup, je trouve que ce qui manque, c'est ça, c'est quoi en fait ? Parce que quand on se projette dans le futur, finalement, moi je me suis rendu compte que personne n'avait de vision assez précise. Il y a très peu d'imaginaire, ou en tout cas, ils existent, mais ils sont très peu exprimés. C'est-à-dire que en ce moment, par exemple, je lis beaucoup de science-fiction africaine, de science-fiction chinoise, je me nourris des imaginaires des différentes cultures, pour voir ce que les gens projettent dans le futur, ce qu'ils auraient envie de voir, ou ce qu'ils ont peur, ce dont ils ont peur, etc. Et c'est assez fascinant parce qu'on ne se rend compte que d'un point de vue politique, même plus personne ne projette une espèce de modèle de société dans laquelle qu'on a envie de construire et vers lequel on veut diriger les énergies. Tout ce qui est vers le futur est anxiété et angoisse, c'est le réchauffement climatique, c'est l'artificialisation de tout, c'est etc., etc. Et en fait, on ne se projette pas dans un futur qu'on a envie de construire parce que tout simplement, on n'en a pas envie, en fait. Et c'est pas clair. Il n'y a pas un projet de société qui est construit. Et donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, tu vois, ce qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est pas de les problèmes, on les constate, c'est important de comprendre les causes pour pouvoir y remédier, etc. Mais c'est plutôt qu'est-ce qui est tenable, qu'est-ce qui est fertile, ça veut dire quoi ça ? Et du coup, qu'est-ce qu'on construit en fait ? Donc je sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi, je dirais que l'un des principaux problèmes, c'est justement ça. C'est que l'une des raisons, alors je suis désolée, je fais une réponse très longue, mais l'une des raisons pour moi, c'est que cette vision-là, pour la construire, justement, c'est une vision complexe. Tu vois, il faut pouvoir répondre à comment est-ce qu'on va tous se nourrir en 2050 quand on sera 10 milliards sur cette Terre. Il faut pouvoir répondre à des questions de comment est-ce que on fait en sorte qu'on soit en bonne santé dans un monde qui se réchauffe, comment est-ce qu'on habite cette terre, c'est quoi les nouveaux modèles de transport, de travail, d'utilisation de l'énergie, etc. Et en fait, on ne peut pas répondre à cette question-là de manière isolée, parce que chaque fois qu'on touche à un équilibre à un endroit donné, ça a un impact sur les autres sujets. Et c'est pour ça que quand j'avais monté ce projet à penser demain pour le numérique, c'était exactement pour tenter de répondre à cette question et de créer une vision globale de là où on voulait aller en intégrant des visions du terrain de gens qui se posaient et qui vivaient ces problématiques-là au quotidien et de les rassembler tous ensemble pour essayer de voir si on pouvait créer cette vision globale. Voilà, et donc je trouve que ce qui manque, c'est qu'on a des visions locales, mais il n'y a pas une vision globale de ce qu'on pourrait faire en essayant de trouver des équilibres à l'intégralité de ces problèmes.
Je compasse justement du temps là-dessus pour voir quelle est cette vision qui, j'imagine, est portée aussi dans ton projet, de comment, quelles sont les étapes pour y arriver. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir, en tout cas moi c'est la manière aussi dont je fonctionne, c'est aussi de partir des contraintes qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut se baser sur une base un peu solide et réaliste justement, pour pouvoir identifier quels vont être les enjeux demain. Et après, effectivement, il y a une stratégie, en fait, c'est de faire la stratégie, se projeter pour savoir où est-ce qu'on veut aller, et puis de faire une espèce de plan en fonction des en partant de la réalité d'aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y en a souvent aussi encore beaucoup de mal, notamment dans les milieux économiques, à bien regarder quelle est cette réalité aujourd'hui, d'où on part. Et quelles sont les contraintes lourdes qu'on a devant nous, dont certaines sont physiques, connues, etc. Et donc on y a encore beaucoup de ce que j'observe, il y a beaucoup de déni autour de ça. Donc forcément, même quand on se projette, on est quand même, quand on fait un exercice de projection qui parfois peut être positif, on le fait quelque part de manière un peu hors sol, parce qu'on ne prend pas en compte certaines contraintes ou certains enjeux qu'il va avoir. C'est pour ça que c'est un peu ma question de départ, c'est comment tu regardes aujourd'hui. Et après on va parler de demain, mais par exemple, comment tu fais le lien entre l'évolution des systèmes, tu vois, par exemple le défi écologique, économique, etc., sur lesquels tu te bases pour te projeter.
Tu soulèves un point très fort, qui est qu'aujourd'hui on a construit un système économique qui tient compte de la contrainte de l'argent, mais qui ne tient pas compte de deux autres contraintes qui sont ou qui tient pas suffisamment compte, on va dire, parce que c'est pas vrai qu'ils en tiennent pas du tout compte, mais qui sont effectivement les limites même de notre écosystème naturel et les limites même des gens, quoi, des humains. Et donc, en fait, quand je parle, moi, dans 2050, de cette idée de d'aligner les intérêts économiques des entreprises avec les intérêts de la planète et les intérêts de la société, ça veut aussi dire qu'il faut intégrer ces propres contraintes-là et que dans le système actuel qu'on a construit, elles sont très peu intégrées. Bon, y a un truc qui me marque beaucoup, c'est que quand tu regardes toute la théorie économique, elle n'intègre pas les contraintes de production. Tu vois, c'est comme si la production était illimitée, ouais, dans tous les modèles, en fait. Tu peux, tu vois, produire, il suffit, c'est quasi linéaire, enfin, tu vois, c'est un peu infini, alors que c'est absolument pas vrai dans la réalité. Et il y a même des modèles économiques où beaucoup de gens commencent à calculer, tu vois, comment est-ce qu'on arrive à une croissance optimale à l'heure du réchauffement climatique et disent, bah, c'est super, une croissance optimale, c'est pour 5 degrés de réchauffement climatique. Mais ça.
Ouais, c'est le modèle Nordhaus du prix Nobel.
Voilà. Et tu te dis, mais tu t'as compris ce que ça voulait dire, 5 degrés de réchauffement climatique, en fait? T'as compris le nombre de gens qui, quelque part, sont impacté dans leur vie, c'est-à-dire que le nombre de vies de gens qui vont mourir de ça, le nombre de maisons qui vont être détruites de ça, la destruction des écosystèmes naturels, l'impact sur la vie de nos enfants, de tous ces trucs-là. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement frappant, c'est d'avoir construit des modèles comme si on n'était que des homo economicus, en fait. Pas comme si on était que oui, effectivement, l'argent est une dimension essentielle de notre survie aujourd'hui, dans le monde actuel, mais c'est absolument pas la seule, en fait. Et que donc d'avoir construit un système qui optimise que sur cette dimension-là et qui n'optimise pas sur les deux autres dimensions, qui sont la dimension que moi j'appelle sociétale, mais qui est aussi à l'échelle individu des gens, et la dimension de la planète, des ressources naturelles, de la biodiversité, etc. Et ben, en fait, on est aveugle. On est aveugle de ces deux dimensions-là et ça ne peut pas fonctionner tant qu'on n'aura pas intégré à ce niveau-là ces deux autres grandes dimensions.
Je mettrai en lien sur le site, justement, il y a des vidéos récemment parues qui expliqueraient très bien comment le modèle économique classique, justement, qui était primé récemment par un Nobel, ne prend pas en compte les externalités, que ce soit en entrant ou en sortant du modèle, et que en fait cette croyance en la croissance infinie repose sur cette idée que l'innovation pourra toujours remplacer les contraintes physiques qu'on va pouvoir avoir. Il y a d'autres modèles qui existent,
en fait, moi,
qui ont fait cet exercice,
même,
et ouais, dis-moi.
J'ai un problème même avec le mot externalité, en fait.
OK.
C'est ce pourquoi, parce que ça donne que c'est comme si c'était une dimension secondaire de notre action. Tu vois, c'est comme tous ces trucs où on dit ce sont des paramètres extra-financiers. Parce que ça veut dire que la valeur première, c'est justement la partie financière et économique. Il n'y a pas de, tant qu'il y aura un ordre, en fait. Tu vois, ça crée une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, je pense. Si à partir du moment où on se dit que tout le système doit d'abord optimiser et que le reste, ce sont des contraintes, des externalités, etc. Ça ne participe pas des résultats de notre action. Je pense qu'on ne le met pas au bon niveau, en fait.
Oui, clairement, mais c'est-à-dire que même, c'est aussi pour ça que tu vois, je parle d'externalité, parce que tu vois même que dans les équations économiques qui sont faites, c'est pour ça que quelque part, beaucoup de gens ne voient pas le sujet et vont jusqu'à dire que finalement, il peut y avoir une espèce d'optimum à plus 3 degrés. Parce que il y a tout un tas de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Donc, il y a déjà un défaut dans l'équation dans le système mathématique, comme tu dis, de départ. Moi, ce qui me fascine, et t'as déjà commencé à y répondre, mais c'est que de voir que, tu vois, on a vraiment un diagnostic qui est largement posé sur les risques qui sont liés au dépassement des limites planétaires. Et le discours dominant dans les entreprises et les investisseurs est en train de changer. Il a déjà beaucoup changé depuis quelques années. Tu vois, il s'agit d'être responsable, de contribuer à construire un monde soutenable, de faire toutes les boîtes ont des plans zéro carbone, socialement responsables, etc. On voit, tu vois, récemment Bill Gates qui se met à fond sur le climat, qui vient de publier un livre là-dessus. Larry Fink qui met la pression sur les entreprises dans lesquelles son fonds BlackRock investit. Elon Musk qui parle de sauver la planète à coup de voiture électrique, etc. Mais on est largement toujours dans cette idée qui qu'en fait, il suffit d'innover, tu vois, qu'il suffit de faire un peu différemment, d'allouer les investissements sur les bons sujets pour qu'on résolve tous les problèmes. Et ce qui n'est pas du tout le constat que tu fais, en fait. Et moi, ça me trouble de voir... Enfin, je ne comprends pas comment c'est toutes ces personnes-là qui sont extrêmement bien formées, peut-être les personnes les plus informées, les mieux informées du monde, continuent de tenir un discours... en gros, qui ne prend pas en compte les limites ou qui est dans cette croyance que l'innovation va pouvoir tout résoudre, etc. Tu vois, comment tu interprètes ça?
Comment j'interprète? La science nous a, et c'est toute la grande question du progrès, hein. C'est-à-dire qu'on va, se dire que, en mettant comme le problème est identifié, eh bien, on va mettre les meilleurs cerveaux et l'argent à la résolution de ce problème, et on y va. Le problème fondamental que je vois, c'est que souvent, alors toi tu dis le constat n'est pas le bon. Je pense aussi que la méthode n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on nous a appris dans tout notre système éducatif, etc., et professionnel, à reproduire les bonnes pratiques. C'est-à-dire que mes enfants à l'école, quand j'ai appris, etc. En fait, on t'apprend, et même dans le numérique, tu vois, on parlait de transformation numérique avant de se lancer là dans l'enregistrement du podcast. Il y a maintenant des bonnes pratiques qui sont assez établies, un espèce de playbook sur comment est-ce que tu te transformes numériquement. Qu'est-ce qui a été démontré comme étant efficient par la plupart des entreprises et que donc il faut que toi tu suives pour arriver à transformer ton modèle économique, la manière dont tu fonctionnes en interne, en tant qu'entreprise, etc. Donc, on est dans un modèle de reproduction du passé, mais massivement. Et donc, mon grand sujet, c'est que si pour résoudre les problèmes qu'on rencontre, on se dit qu'on va appliquer les méthodes du passé qui elles-mêmes sont créatrices en partie de ces problèmes-là, on a un problème en fait. C'est-à-dire qu'on est juste en train de les accentuer. C'est pour ça que souvent, quand je présente 2050, je dis trois choses. Je dis un, nous, on veut créer un futur fertile, et donc j'explique pourquoi c'est fertile et pas durable, soutenable, etc. La différence qu'on y voit derrière ce mot, qui est que on veut que ce soit productif, hein. Je veux dire, on a besoin, nous, chacun d'entre nous, de continuer à créer. Ça nous porte aussi, tu vois. C'est notre action, c'est notre raison d'être aussi, hein, d'être productif. Donc on continue à l'être. Il y a des opportunités, etc. De cet évolutif, c'est-à-dire que c'est un système qui justement n'est pas figé parce que c'est pas uniquement dans 10 années qui viennent qu'il va y avoir des transformations. On est parti pour un cycle de transformation permanent. Donc on a besoin de créer des modèles qui ne sont pas figés, mais qui justement arrivent à s'adapter à des contraintes qu'on n'a jamais vues, à des situations qu'on n'a jamais vues, en fait. Donc il y a cette notion d'évolutivité et il y a aussi une notion d'inclusivité, qui est que justement dans Fertile, on sort de cette idée un peu préconçue historique de one size fits all, standardisation, tout le monde va consommer la même chose pour être heureux de la même manière, etc. Mais au contraire de se dire non, on a besoin d'avoir ces différents espaces pour que chacun y trouve sa place. Donc on définit ça, on dit bon ben pour y arriver, il faut régler les grands problèmes de ce monde, donc comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde, comment est-ce qu'on maintient les gens en bonne santé au quotidien, comment est-ce qu'on crée les nouveaux modèles éducatif et culturel, comment est-ce qu'on crée un système de vie durable en termes d'énergie et tout, et comment est-ce qu'on remet la confiance au cœur de l'économie et de notre démocratie. Mais ça ne pourra être durable que si les entreprises qu'on crée, et c'est là qu'on vient sur finalement ce dont tu parles, qui est les hypothèses de base, que si les entreprises qui résolvent ces problèmes-là sont alignées. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne sont pas en train de recréer, si on emploie la terminologie externalité, des externalités négatives qui font que, en fait, t'es juste en train de créer d'autres problèmes à côté que t'as pas vu parce que t'es juste toujours uniquement en train d'optimiser sur la partie intérêt économique et tu n'as pas pris en compte l'impact sur la nature et sur la société que tu as. Donc, il faut vraiment ces trois dimensions. Un, faut effectivement poser les problèmes et voir comment on les résout, se donner une destination du type de société qu'on veut construire et de voilà. Et trois, arriver à faire en sorte que les moteurs de cette transformation-là eux-mêmes ne sont pas en train de tout casser à côté. Donc, c'est pour ça que
je trouve qu'il faut.
Ouais, je trouve qu'il faut séparer le diagnostic de la manière dont on le résout, en fait. Oui, c'est important et je pense qu'on est dans une phase où les gens ont posé un diagnostic sur les problèmes à résoudre. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, toute une phase d'entrepreneurs et d'investisseurs qui se disent « on va mettre notre énergie là ». Et c'est génial. Franchement, c'est super d'avoir ça. C'est une dynamique positive, tu vois. Après, il faut que dans la manière dont on les résolve, on ne soit pas en train d'en recréer des nouveaux ou d'en prolonger certains parce que on n'a pas intégré justement toute cette partie holistique qui est que quand t'agis là, en fait, t'es en train de créer des problèmes à côté.
Je veux bien qu'on revienne un peu plus tard là-dessus. Je veux bien qu'on parle un peu plus aussi maintenant concrètement de ton projet, mais peut-être commencer par redéfinir en fait ce qu'est ton métier, par parler de ton métier avant de parler du nouveau projet. Parce que toujours sur ton site, j'ai dans la présentation de tes partis pris, de vos partis pris, il y a une question qui est à quoi sert l'argent, que je trouve intéressante. Et donc on va parler du métier, ce qu'est le métier d'investisseur et la réponse qui est apportée. Je la lis. La finance et l'argent prennent tout leur sens quand ils servent à façonner un monde où les intérêts économiques sont alignés avec ceux de notre société, de notre planète. Et en tant qu'investisseur, notre mission consiste à orienter l'argent pour contribuer à façonner cet avenir fertile. On va parler de comment on fait ça, un peu plus dans le détail, et de la méthode, qui je trouve très intéressante. Comment tu définis le métier d'investisseur et de gérant de fonds? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, je pense, ne sont pas familiers avec cet univers-là. Et à quoi ça sert fondamentalement? Où est-ce que ça se situe dans la société, dans l'économie?
Alors moi, je suis investisseur, mais dans du capital risque, c'est-à-dire que le métier est de financer des entreprises qui ne peuvent pas être financées par de la dette, hein, par des prêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sur des phases où les entreprises sont... parce qu'elles sont en train d'innover, parce qu'elles sont en train de prendre des risques pour s'internationaliser, par exemple, sont dans une phase d'investissement où il n'y a pas un espèce de chiffre d'affaires projetable, de manière très stable, envisagé. Donc, on ne peut pas avoir recours à de la dette. Soit parce que les entreprises sont pas déjà rentables et ne peuvent pas rembourser un prêt, soit parce que la phase d'investissement est tellement risquée, comme c'est de l'innovation, comme c'est de la recherche à financer, comme c'est... il y a la possibilité que ça ne rapporte pas autant qu'on le pense ou que ça dure plus longtemps ou etc. Donc c'est du financement d'entreprises, mais qui dans une phase où ce qu'on demande en échange de notre argent, c'est du capital, donc c'est des actions des entreprises. Et ces actions, la particularité que ça a, c'est qu'on ne demande pas de remboursement associé. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de faire en sorte que le prix auquel on va acheter ces actions augmente pour que, à terme, quand on vendra ces actions, on fera une plus-value. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle du capital aventure aux États-Unis et du capital risque en France. C'est que les États-Unis se disent « ouais, ça veut dire qu'on fait des super aventures ensemble » et les Français disent « oui, ça veut dire qu'on prend le risque de l'entrepreneur ». Donc, à part le biais culturel qui montre bien là où certains voient des opportunités, les autres voient des risques. En fait, fondamentalement, c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est d'aligner nos propres intérêts en tant qu'investisseurs avec ceux des entrepreneurs. Pour ça, on a une autre partie du métier qui est que c'est pas uniquement une prise de participation, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs au quotidien. Donc, on va... prendre des places au conseil d'administration, on va essayer de les accompagner par des conseils, par des mises en relation, par du soutien en mode un peu sparring partner des entrepreneurs. Donc on a, et chaque fonds quelque part va définir sa propre proposition de valeur pour les entrepreneurs. pour les accompagner dans cette croissance. Donc c'est un métier de croissance, hein. De manière à ce que voilà, on va y revenir, de manière à ce que bah, à terme on puisse arriver à ce que au bout de 5, 6, 7, 8 ans, on puisse revendre ses actions et créer de la performance financière au travers de la croissance de l'entreprise, en ayant les intérêts alignés avec tous les autres actionnaires de l'entreprise, et on essaye que les fondateurs et les personnes clés de l'entreprise soient elles-mêmes actionnaires de l'entreprise, de manière à être vraiment dans cette idée d'alignement. Donc ça, c'est le métier d'investisseur. Après, il y a un métier dont que tu as différencié les deux, donc je vais différencier les deux, qui est la partie gérant de fonds, parce que en fait, on n'investit pas dans une entreprise, on lève des fonds et dans lequel on va investir dans un portefeuille d'entreprise. Et donc là, cette deuxième partie du métier, ça va être de dire, bah nous, notre stratégie de fonds, c'est qu'on va investir dans, on va créer un portefeuille d'entreprise, de manière à diversifier votre risque aussi, mais en prenant un parti pris qui est que notre stratégie va être, par exemple, d'investir dans que des startups d'intelligence artificielle ou que dans le monde de la grille. Donc, on se spécialise quelque part. Donc, on crée une stratégie d'investissement au niveau du fonds. On va du coup gérer l'argent et le déploiement de l'argent que l'ensemble de nos investisseurs va nous confier au travers d'un ensemble d'entreprises sur lesquelles on va allouer l'argent, on va en refinancer certaines à certains niveaux. Il y a un aspect gestion de l'argent confié en attribuant à différents stades de développement à certaines entreprises et en investissant dans un pool d'entreprises qui correspond à certains critères qu'on aura prédéfinis au début.
Ok.
Ça va, c'est clair.
Merci
à peu
pour
près.
Ce très clair.
Bon.
Non, je pense que c'est utile de encore pour voir de quoi aussi on parle. Alors allons sur ton projet actuel. Mm. Alors je sais pas dans quel ordre tu veux faire, parce que il y a une question qui était sur la méthode. Comme tu disais, c'est-à-dire en quoi ce que tu essaies de créer est différent de ce que tu as pu créer avant et peut-être de ce qui existe à côté. Et j'ai une autre question sur ta vision, justement. À quoi ressemble en 2050, ce monde fertile, cette économie, ces entreprises qui nous auront permis, tu vois, de...
Ah, j'aimerais bien y répondre à celle-là. Hein.
oui, mais comme tu disais, tu vois, j'imagine que tu as déjà un petit peu pensé ou qu'il y a déjà un début de méthodo pour y aller.
Ouais.
Voilà, ça peut être les deux en même temps ou l'une après l'autre, mais savoir voilà, comment tu organises ça et pourquoi tu as cette approche qui a l'air quand même un peu plus qui a l'air assez novatrice.
Ouais.
Et peut-être détailler ce que c'est, comment ça marche.
Alors, écoute, moi, il y a une des choses qui m'a beaucoup parlé dans ce métier, c'est vraiment cette notion d'alignement, d'intérêt avec les fondateurs, etc. Ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, mine de rien, et le monde a pas mal changé dans ces 20 ans. Et moi, j'ai eu le temps d'expérimenter quand même plusieurs types d'entreprises, plusieurs types de croissance, plusieurs types de fondateurs, plusieurs types de relations. Et j'ai évolué moi-même dans la manière de penser ce métier. Et il y a une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que le principal facteur de désalignement avec les entrepreneurs qui persistent en fait, c'est que comme la plupart des fonds de capital risque sont sur des fonds ce qu'on appelle fermés, donc c'est sur des fonds où il y a une durée de temps qui est délimitée, qui est de l'ordre de 10 à 12 ans, et ça veut dire que en fait il y a un moment donné où on va nous être forcés de vendre nos actions, de sortir. Et on essaye toujours, comme on est dans cette notion d'alignement, d'avoir les entrepreneurs qui, eux aussi, sont dans cette dynamique où ils essayent de faire la même chose que nous. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Ça évolue parce qu'on arrive à créer aujourd'hui un marché secondaire de plus en plus fluide. Mais fondamentalement, si je caricature le biais que ça peut avoir et le biais qu'on inscrit dans les pactes d'actionnaires, même si je le vois très peu exécuté, hein, donc c'est plus pour comprendre la philosophie ultime, finalement, de ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on signe un pacte d'actionnaire, souvent il y a une clause de liquidité, de rendez-vous. On se dit, bah, dans 6 ans, on est bien d'accord, cher entrepreneur, que si nous on n'est pas sorti, c'est-à-dire que nous on n'a pas vendu nos propres actions, bah, à ce moment-là on va vendre l'entreprise. Et donc ça influe sur la stratégie globale de l'entreprise elle-même. Et pour moi, ça c'est une des principales sources de désalignement, parce que on est en train de dire, de forcer des stratégies où on dit, ben, en fait, non, on veut croître très, 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 très vite et dans 6-7 ans, revendre l'entreprise ou s'introduire en bourse ou trouver des choses, etc. Donc, ça biaise, en fait. Ça biaise. Et donc ça, l'une des caractéristiques de 2050, c'est d'avoir un fonds qu'on appelle Evergreen, c'est-à-dire qui est ouvert dans le temps. Et on se dit, on va régler ce problème de désalignement potentiel entre les entrepreneurs et les investisseurs en se donnant pas cette limite de temps. Donc le fonds dure 99 ans, mais en travaillant plutôt pour que cette liquidité dont nos investisseurs ont besoin, hein, la raison pour laquelle on le fait, c'est pas parce qu'on est des gros méchants, c'est parce que nous on gère l'argent de tiers et que eux à un moment donné ils ont envie de récupérer l'argent qu'ils nous ont confié, de voir avec une performance, etc. Donc c'est le métier qui veut ça. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut plutôt qu'on travaille au niveau du fonds et à créer finalement des innovations au niveau du monde financier pour que nos propres investisseurs qui veulent sortir, ben ils n'ont pas à attendre 10-12 ans, ils peuvent potentiellement le faire avant, mais ils vendent des parts du fonds.
D'accord.
Ce qui nous laisse une latitude complète vis-à-vis des entrepreneurs du dessous. Donc l'une des choses que moi j'ai changé finalement dans ma manière d'être, c'est d'essayer de continuer à aller jusqu'au bout de cet alignement complet en fait, en essayant de sortir ce critère assez potentiellement profond de désalignement et en essayant plutôt de le régler au niveau en faisant une opportunité finalement en se disant ben notre objectif ça va être d'apporter plus de liquidité dans ce monde du non coté en créant des fonds evergreen qu'on peut potentiellement coter sur des plateformes de gré à gré, etc. Donc ça c'est l'une des choses qu'on fait. Et après, une des choses qui va rejoindre...
Ce qui sera intéressant, ça va être de, pour reboucler avec la vision que tu as évoquée au début, justement, sur le fait qu'il y avait plein de choses à changer, que le système ne pouvait pas se changer tout seul, qu'on avait des problèmes, qu'il fallait réinventer vraiment la manière de faire. Est-ce que tu as intégré ça dans 2050? Quels sont les secteurs, du coup, sur lesquels vous allez investir en priorité par rapport à cette vision? Pour développer un peu plus avec toi, voilà. C'est évident qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont été identifiés sur lesquels, par exemple, si on prend juste le problème climat, il va falloir très vite réduire l'impact carbone, la construction, l'énergie, etc. Mais comment on fait ça? Quelles sont les priorités que toi, tu identifies? Est-ce que ça suffit, en fait, de modifier, à quel point il faut modifier la méthode? Et surtout, comment on fait ça en gérant l'impératif de croissance qu'il y a et qui est inhérent à l'investissement? Tu vois où je veux en venir, parce qu'il y a pour beaucoup il y a un problème avec cette idée de croissance.
Oui. Alors il y a plusieurs questions. Donc, première chose, comment dire, moi c'est pas nouveau cette idée de destination de l'argent que j'ai profondément. Je dirais quand on a monté Daphni, il y avait vraiment cette idée de on veut financer un monde meilleur. Toi tu quand tu regardes, c'est depuis là on l'a en fait et on l'exprime et on essaye de le faire. Mais moi, je me suis rendu compte qu'un monde meilleur, tu vois, quand tu réfléchis à un investissement donc et que les entrepreneurs viennent te voir, ils t'expliquent en quoi finalement leur société permet de résoudre un tel ou tel problème, etc. Et je me suis rendu compte que souvent, je manquais de... Je manquais de réponses systémiques. Donc, typiquement... on a financé chez Daphni un robot pizza qui s'appelle Patsy et je me rappelle de discussions extrêmement animées au comité d'investissement parce que on se dit est-ce que ça crée un monde meilleur ou pas? Et tu as plein de manières de prendre ce problème-là parce que tu te dis oui parce que comme on réduit le coût de la main-d'œuvre et ça a toujours été le focus de l'entreprise. Eh bien, tu peux avoir des ingrédients bio, locaux, accessibles aux populations les plus défavorisées. Et c'est vrai. Et d'un autre côté, tu te dis, bah oui, mais si on est sur la robotisation et de l'intelligence artificielle tout le temps et que, quelque part, on est en train de retirer toutes les opportunités d'emploi, tu vois, qu'on est en train de réduire l'emploi.
Oui, bien sûr.
Et donc, est-ce que ça, comment ça, c'est compatible? Et donc, pour répondre à cette question, finalement, en te disant, bon, ben, par rapport à ces deux visions du monde-là, où est le bon équilibre? Qu'est-ce que ça veut dire, monde meilleur, etc.? moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir une compréhension de toute la chaîne de valeur, en fait, pour y arriver. Donc, ce qu'on fait chez 2050, qui est très nouveau, c'est de dire quand on va essayer de comprendre les écosystèmes de A à Z. Donc là, le premier focus de 2050 qu'on a creusé, c'est ce qu'on appelle l'essentiel agri. Donc, en fait, nos 5 piliers d'investissement, donc ils sont tout ce qui tourne autour de l'alimentation, tout ce qui tourne autour de la santé, mais au quotidien, tout ce qui tourne autour de l'éducation et de la culture, la vie durable, donc le transport, l'habitat et l'énergie. Et puis, autour de cette économie de la confiance, donc la banque, la finance, l'assurance, les médias, on a commencé par la partie agricole. Et ça fait un an et demi qu'on creuse, en fait, plutôt un an, qu'on creuse tout l'écosystème, toute la chaîne de valeur, pour voir les nœuds de partout. Et en
fait, définir aussi, j'imagine, quels vont être les bons critères de la bonne grille de lecture, parce que vous en avez besoin pour investir. Ouais.
Exactement. Donc du coup, moi là, j'ai une compréhension effectivement de quelles sont les bonnes opportunités d'investissement maintenant, mais quels sont les nœuds qui empêchent certaines d'autres d'émerger, qui est beaucoup plus large que ce que j'ai jamais eu en fait. Et donc parce que j'ai compris les nœuds au niveau du foncier, au niveau de la terre, j'ai compris les nœuds au niveau des semences, j'ai compris les nœuds au niveau de la formation des agriculteurs, j'ai compris les nœuds au niveau de l'équation économique qu'ils ont, au niveau de après toute la manière dont ils sont conseillés par des techniciens sur la chaîne de transformation, sur la distribution, sur après toute la partie gestion des gâchis, etc. Et du coup, quand tu arrives à ça, c'est absolument fascinant, hein, parce que tu te dis comment est-ce qu'on a pu arriver à autant de quelque part de mm-hmm. d'absurdité. Mais parce que finalement c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que on se rend compte en comprenant toute cette chaîne-là pourquoi le système n'est pas résilient. Là où ce qu'il faudrait faire pour débloquer des nœuds et ce qui rend le déblocage de ces nœuds hyper complexe, parce que mine de rien, ça a été optimisé. Et donc, ça fonctionne pour plein de critères particuliers. Mais donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que j'ai pu faire ça? C'est-à-dire avoir cette compréhension-là? Bien, un, parce que la première personne qui a été recrutée chez 2050, c'est quelqu'un qui s'appelle Aïcha Bendia, qui vient du monde de la recherche terrain. Elle a fait une thèse avant avec Esther Duflo, donc sur tout ce qui est recherche action, recherche terrain, etc. Et que on a des experts, donc on s'est appuyé beaucoup sur quelqu'un qui s'appelle Dominique Dron, que j'avais pris dans le Conseil national du numérique aussi, et qui a une vision 360 de tous les sujets environnementaux, parce que elle a été conseillère spéciale du Grenelle de l'environnement, elle a été à l'INRA, elle a été à l'IFREMER, elle a été à l'ADEME. Et donc, elle nous a permis de trouver les bons points d'entrée pour après aller sur le terrain, rencontrer l'ancienne présidente de la Fédération nationale des agribio, etc. Et c'est pas moi, avec mon petit bagage, bonjour, chez Marie Eklund, j'ai investi dans des startups du numérique, qui me permet d'aller avoir cette compréhension-là. Donc c'est du temps, c'est des compétences différentes et des visions différentes, c'est des réseaux différents, et donc ça te permet finalement de comprendre mieux et donc d'investir dans des entreprises dont tu penses que ça va permettre de régler des problèmes. Donc, les problèmes sont beaucoup mieux identifiés. Mais il y a un deuxième truc dont on se rend compte, c'est que les entreprises ne suffiront pas à régler les problèmes. Ça ne suffira pas.
C'est une très bonne introduction sur la question. Après, je pense que tu pourras inclure aussi cette question que j'avais sur le paradoxe qu'il pouvait y avoir aussi à vouloir faire de la croissance en investissant et cette problématique qui va falloir certainement simplifier. Donc il y a une vision que vous avez définie qui est une espèce d'idéal de société qui est aussi, j'imagine, en train d'être construit et qui se construit en permanence, parce que c'est quand même très très large, mais on voit vers fertilité.
Typiquement, tu vois, sur l'agriculture, mm-hmm. typiquement, on voit bien que l'arrivée du numérique peut aider à régler certains problèmes. Mais que si tu crées une dépendance au numérique pour les agriculteurs et que à côté de ça tu ne pondères pas par une formation sur le vivant, tu ne leverages pas tous les atouts formidables que la nature peut nous amener pour résoudre ce réchauffement climatique, on va pas y arriver. Donc c'est tout ça en fait, que ça pose des vraies questions sur quelle est la place de la technologie. Quelle est la bonne place de la nature aussi, et comment est-ce qu'on peut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble, quoi.
Et alors, quelle est la place, pour boucler avec ce que tu disais, des entreprises, justement. C'est-à-dire que t'as bien expliqué le fait que il y avait une complexité dans chaque secteur d'activité et que c'était un vrai défi de savoir, enfin, de la comprendre pour savoir justement quels étaient les nœuds, quel était le système, et du coup, où investir quand on a cette vision d'impact positif, entre guillemets. Si tu te places peut-être par rapport à ta vision qui est forcément incomplète, mais ta culture générale du sujet, au niveau de la société, où est-ce que tu identifies les principaux nœuds, justement, les principaux freins qui nous empêchent aujourd'hui d'adresser ça, et peut-être aussi entre l'État, les collectivités, les entreprises, et c'est là aussi, je pense, que tu peux reboucler avec l'idée de croissance, etc.
Et de commun, donc, que j'ai commencé
à... Et de commun, oui, parce que c'est aussi
que j'ai commencé à toucher du doigt quand je disais ça. Donc, ouais. Je pense que le principal frein, il est culturel. Et éducatif. Okay. Quand je disais il y a beaucoup de que les entreprises ne suffiront pas à régler les problèmes, c'est pour ça qu'on a décidé au sein de 2050 de consacrer 10% du fonds à financer ce qu'on appelle des communs stratégiques ou des avantages durables pour nos entreprises, mais qui vont être partagés. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des communs aussi. C'est parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit financer qui sont des nœuds, mais que tu ne peux pas régler par des entreprises. Donc, typiquement, la formation. Okay. Tu vois, donc, le savoir, si je prends uniquement le sujet agricole, tout le savoir agroécologique, aujourd'hui, il existe, mais il n'est pas largement enseigné, par exemple.
Et que tu sors de cette idée, du coup, de rentabilité, en fait.
Donc, il y a 10% du fonds, on n'en attend aucune rentabilité directe. Cet argent-là doit servir à créer les conditions pour que les 90% réussissent mieux, mais on en fait aussi en profondeur ce qu'on appelle des communs stratégiques, c'est-à-dire qu'il est accessible au-delà de notre propre écosystème, en fait. Ça doit permettre de résoudre des nœuds sectoriels. Le premier de ces communs stratégiques, c'est on parlait de la transformation numérique en disant on a réussi à créer les bonnes pratiques qui permettent de se digitaliser en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes pratiques sur ça veut dire quoi s'aligner. Ce playbook de l'alignement, il n'existe pas en fait. Et il n'existe pas pourquoi ? Parce que on est en train de le créer, enfin on est en train d'expérimenter, on ne sait pas comment faire. Et donc nous, notre idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à créer cette intelligence collective-là, dont on va pouvoir faire bénéficier nos propres entreprises pour que finalement elles accélèrent cette transformation interne, mais plus largement tout le monde pour que ça permette de créer ces bascules de marché plus rapides. Et la première de ces briques sur laquelle on a commencé à agir et qu'on a commencé à construire en fait, c'est du savoir sur le réchauffement climatique justement. Donc on a fait ça en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine et la Fondation Madeleine. C'est un cours qui est 360 degrés sur les phénomènes physiques, les phénomènes biologiques, toute la partie, le cycle du carbone, les prévisions du GIEC, comment tu les comprends, l'histoire de l'agriculture, l'histoire de l'énergie, toute la partie pourquoi on en est là, donc qu'est-ce qui, donc un peu science sociale, tu vois, ce qui a fait que on a pris ces décisions à un moment donné qui nous conduisent à cette situation. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudra une deuxième partie de ce savoir qui n'est pas encore vivant, qui est maintenant qu'on sait ça, parce que ce savoir-là, quand tu l'acquiers, mais en fait, il n'est pas neutre du tout, il est très lourd. Hein. Quand tu comprends l'inéluctabilité et les conséquences du réchauffement climatique, je veux dire, tu ne peux pas donner ce savoir sans l'accompagner, en fait. C'est pas possible. Et donc du coup, ce savoir-là, c'est un cours sur le réchauffement climatique qui est donné aujourd'hui cette année à tous les étudiants en première année à Dauphine. Il est obligatoire pour tous les étudiants. Et il a été coécrit par mon père, qui est un chercheur en maths, et Aïcha, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis évidemment toute l'équipe pédagogique à Dauphine. Mais la partie qui est coécrite par mon père Aïcha, elle est en Creative Commons. Donc c'est comme elle est accessible à tout le monde sur Internet en mode Creative Commons avec l'idée que tout le monde puisse y contribuer pour faire en sorte que ça soit un socle de savoir. Et elle a été écrite de manière complètement vulgarisée pour que très simplement tu puisses te faire une culture. Après tu creuses si tu veux, mais au moins tu as une vision globale de ce qui est en train de se passer et tu as les clés. Et ça, je pense que c'est essentiel pour répondre à ta question sur c'est quoi le premier problème que je vois, c'est que je pense que les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Et que tu peux agir sur ce que tu comprends, en fait. Et donc, tant qu'on n'a pas compris exactement, tu vois, la dépendance qu'on a au carbone, comment est-ce que tu fais en sorte qu'en tant qu'entreprise, tu l'intègres dans toutes tes actions et tu vois les conséquences de ça. En tant que tu es un directeur des achats, c'est quoi ton nouveau métier à l'ère du réchauffement climatique, en fait? Et pour ça, je pense que comme il n'y a pas de bonnes pratiques, personne n'a des recettes de « faut faire ça, 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 ça ». Donc du coup, faut les créer soi-même. Et pour les créer soi-même, tu as besoin d'avoir une compréhension en profondeur de ce qui est en train de se passer. D'où l'idée d'avoir cette première brique de savoir, qui est notre premier commun stratégique, donc, qu'on va diffuser, qu'on va augmenter, qu'on va essayer de quelque part d'en créer un consensus, de manière à ce qu'on puisse construire dessus et derrière construire ce playbook de l'alignement en monitorant avec une plateforme d'intelligence collective toutes les bonnes pratiques que les différentes entreprises et les différents corps de métier à l'intérieur des entreprises font et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas pour qu'on arrive à ensemble créer ce playbook de l'alignement.
Écoute, je te rejoins complètement. De toute façon, c'est ce que j'essaie de faire avec ce projet, c'est de faire de la formation et de l'information sur tous ces sujets-là et d'aller dans la complexité. Donc, je peux pas être plus d'accord avec toi. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un niveau au-dessus. Déjà, quelle est ta vision de la manière dont cet écosystème de l'investissement et de la finance, d'une manière générale, est en train d'évoluer et à quel point il y a une conscience de tous ces sujets-là? Je l'ai dit au début, il y a de plus en plus de développement de ce qu'on appelle aussi l'impact investing, l'investissement à impact positif. Je ne sais pas si c'est là-dedans que tu t'inscris ou si tu as une nuance par rapport à ça. Et est-ce que tu penses que le capitalisme financier est capable de se réformer tout seul, sachant que, enfin, en tout cas moi personnellement, je fais l'analyse que c'est aussi ça une grosse partie du problème, et c'est aussi ça un frein qui nous empêche de construire des communs, par exemple.
Alors, sur l'impact investing, c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs réactions par rapport à ça. C'est-à-dire que au début, quand les gens me disaient « mais en fait, tu fais un fonds d'impact », je disais « bah non, j'arrête juste d'avoir un impact négatif, en fait ». Donc, ou en tout cas, je me force ou je conscientise. Et puis, en fait, maintenant que j'ai avancé dans ma compréhension de ce qui est en train de se passer, je pense vraiment qu'on vit cette transition profonde de l'économie, qu'elle est inéluctable. C'est-à-dire, tout comme le numérique a été inéluctable dans la transformation de l'économie et dans la disruption finalement des acteurs en place, et dans leur nécessaire adaptation, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est de la même ampleur, si ce n'est plus. C'est exactement les mêmes dynamiques de transformation. C'est porté par les gens. Donc, à la fois les consommateurs dans la manière dont ils changent leur consommation, donc ils changent leurs usages, donc ils changent leur comportement, à la fois par les talents. Donc, c'est-à-dire que la manière dont nous tous, on est en train de réfléchir à nos choix professionnels, au sens de notre travail, etc. C'est-à-dire qu'il y a maintenant ce type de réflexion qui est beaucoup plus poussée. Et quand je vois tous les mouvements chez les jeunes, dans les grandes écoles, dans les universités, au sein même des entreprises, à demander des comptes à leurs dirigeants sur l'éthique, sur l'inclusion, sur plein de choses comme ça. Donc, il y a un mouvement aussi dans l'action professionnelle, pas uniquement dans la consommation. Et il y a un mouvement aussi des investisseurs, mais à titre personnel. C'est-à-dire que ce sont les gens qui demandent à ce que leur argent y soit investi en accord avec leurs valeurs, qu'ils ne fassent pas de mal à la planète, qu'ils ne fassent pas de mal à la société. Et qui, quelque part, posent la question aux gérants de fonds en disant « mais vous, votre fonds, là, c'est quoi son impact justement sur la planète et sur la société ?» Et donc, ça crée cette dynamique de transformation. Et comme c'est au niveau personnel des gens, ça va plus vite qu'au niveau des institutions. Donc, ça va plus vite que la manière dont les politiques se transforment, dont les entreprises se transforment, dont les financiers se transforment. Mais c'est inéluctable. Hein, c'est la même dynamique. Et c'est assez drôle parce que c'est porté aussi par les jeunes, les chercheurs et les entrepreneurs. C'est-à-dire ceux qui font et voient demain, en fait. C'est eux qui portent cette transformation-là. Et qui montre à quel point le reste est obsolète, en fait. Et donc, du coup, ma réponse maintenant sur l'impact, c'est de dire, mais en fait, me dire que je fais un fonds d'impact, c'est la même chose que ce que vous me disiez dans les années 2000 quand vous me disiez « Ah, tu fais un fonds NTIC ». Nouvelle technologie, l'information et la communication. Non, je finance l'économie de demain. Voilà. Et en fait, je finance les champions de demain parce que ceux qui auront le mieux compris cette transition-là, c'est ceux qui vont être les gagnants demain. Et donc, quand on parle de croissance, d'hypercroissance, de résultats, etc., court terme, eh bien, moi, je m'inscris dans cette tendance profonde, dans cette lame de fond de disruption, finalement, en disant ce que je sais, moi, c'est que ces investissements, finalement, sur le long terme, ils vont faire partie de ceux qui performeront le mieux. Je ne peux pas te dire à quel niveau ce sera, parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que les rendements actuels, ils vont être durables. Ce que je sais, c'est qu'en termes de placement, aujourd'hui, si je dois faire moi des placements sur des entreprises et prendre des paris sur quels seront les gagnants demain, c'est celle-là.
Et sur le capitalisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est, tu parlais des nœuds, et je pense que c'est une bonne manière aussi de définir le sujet. T'as beaucoup de gens qui sont convaincus, dont certains à qui j'ai parlé, que finalement, de faire ça, en fait, d'investir sur une nouvelle forme de faire les entreprises tout en étant dans cette idée de croissance, ça ne fait que adresser les symptômes, en fait, tu vois, de coller des rustines. C'est-à-dire qu'on va moins gaspiller, on va mieux faire, mais finalement, on va pas aller vers cette diminution drastique de l'impact qu'il faudrait qu'on ait, notamment sur les émissions. Donc, moi, c'est un vrai truc, j'ai pas la réponse, hein, j'ai pas encore un avis tranché là-dessus, je suis curieux de voir comment tu gères ça, comment tu positionnes là-dessus, sur... Qu'est-ce qui doit profondément changer dans la manière dont le système économique fonctionne aujourd'hui si on veut que ces enjeux soient vraiment adressés sur le fond, c'est-à-dire qu'on émette beaucoup moins, par exemple. Est-ce que ça peut se faire en continuant de chercher de la croissance sur le secteur économique? Alors je comprends que c'est cette idée qu'on va faire croître d'autres pour faire décroître d'autres, qu'il faut... tu vois ce que je veux dire?
En fait, la question que tu poses, si moi je vois finalement le parcours que j'ai eu, Daphne était déjà une disruption du monde du capital risque. On avait déjà fait un certain nombre de choses qui avançaient, mais on n'avait pas touché aux axiomes. Tu vois, on s'inscrivait dans une suite logique. En changeant de manière significative, mais à l'intérieur d'une dynamique existante. Je n'ai pas réussi, je pense que ça ne suffit pas, en fait, pour arriver à réellement créer de nouveaux types de rôle modèle. Je pense que ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans 2050, il y a ces partis pris qui sont quelque part très différenciés, donc que tu peux dire qui sont des partis pris radicaux, qui sont de se dire, par exemple, la société qu'on a créée, eh bien, elle n'a pas d'actionnaire. On en a fait un commun dès le départ. C'est-à-dire que on a résolument, nous, dit on veut aligner notre intérêt économique personnel de nous, les gérants financiers, avec uniquement la croissance de l'écosystème 2050. On ne crée pas de rente au niveau de la société 2050, en fait. Donc, on est sorti du modèle qui est, depuis la nuit des temps, de partnership, en se disant, en fait, la société de gestion elle-même, elle est détenue par un fonds de pérennité, donc qui est une instance de gouvernance, qui est comme une fondation sans but philanthropique. Et donc, on en a fait quelques... Et c'est... Ce niveau-là, donc au niveau du fonds de pérennité, qu'il y a notre board qui valide le budget, qui valide les grandes orientations stratégiques de 2050, qui est garant de la mission, qui est garant de la pérennité économique. Et ce fonds de pérennité n'a pas droit à des dividendes. Et il est composé de membres de notre propre écosystème, donc à la fois des gens de l'équipe, à la fois... Okay. des investisseurs du fonds, à la fois des fondateurs et à la fois des gens sur lesquels on va s'appuyer. Enfin, on voulait toutes les parties prenantes de notre écosystème. Et eux, ils sont là comme ils sont intéressés à la réussite de 2050 parce qu'ils sont acteurs de 2050. Ils en bénéficient quelque part. Ils sont intéressés.
Je te coupe parce que ma question était plus sur un cran au-dessus. C'est-à-dire que là, je comprends bien justement que ça peut avoir valeur d'exemple et que ce que tu essaies de faire, c'est de montrer qu'on peut faire différemment dans cette manière d'investir. Mais par exemple, si on se place au niveau de la société française, selon toi, Quel serait le game changer que tu as pu observer? Enfin, vraiment, les gros nœuds à débloquer, et t'as une expérience aussi, puisque tu travailles pour l'État, qui seraient des vrais accélérateurs pour libérer ce que tu observes?
Alors, moi, à titre perso, je suis arrivée à la conclusion qu'il faut créer les exemples qui marchent.
OK.
Voilà.
C'est ce que tu fais.
C'est ce que je fais. Moi, je n'ai pas réussi à faire autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu
une implication.
J'ai expérimenté une implication politique. J'ai expérimenté d'autres choses. Et je pense que tant qu'on n'aura pas montré qu'une alternative est possible et enviable et plus efficiente et règle des problèmes, les gens ne sont pas paralysés par l'idée même de faire différemment. Et que le réflexe, c'est de revenir au passé, parce qu'au passé, on pense que c'est tout, on voit ce qui était mieux. Voilà. Et que on n'ose pas tenter des nouvelles choses. Donc, je pense que...
L'incertitude fait peur.
Voilà. Donc, moi, ce que j'ai trouvé comme réponse personnelle, c'est qu'il faut faire montrer que ça marche et que après les gens suivront.
D'accord. Donc, plutôt que de, justement, de penser, imaginer un modèle, faire, tester et montrer.
Ouais. Voilà. Donc, moi, mon objectif, en fait, c'est d'expérimenter et puis
okay.
Pour créer une alternative, en fait. Voilà.
OK.
Et je pense que cette liberté-là le permet. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir ces espaces de liberté et d'expérimentation, d'énergie et de potentiel. Il faut le faire à grande échelle. Hein. Mais... c'est pour ça qu'il y a besoin d'être dans une dynamique écosystémique, parce que on n'y arrivera pas tout seul. Je pense que il faut créer ces alternatives-là pour que derrière, les gens puissent agir au niveau supérieur. En fait, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne pourra pas montrer que certaines, leur donner quelque part des appuis sur lesquels ils peuvent asseoir leur action, eh bien, il y a une paralysie terrible, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que les deux choses qu'il faut absolument arriver à faire, c'est un, diffuser la culture et l'éducation sur à quoi est-ce que réellement on fait face, en fait. Et ça, c'est essentiel pour que les gens derrière puissent agir dans le bon sens. Et ensuite, essayer le plus possible de créer ces écosystèmes qui... suggère, expérimente des alternatives pour que derrière, on puisse, à partir de ça, passer à l'échelle, quoi.
C'est clair. On arrive aux questions de fin, un peu plus personnelles, tu t'as un peu répondu, mais comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce qui t'inquiète, au contraire, justement, te donne espoir? Et peut-être un signal faible, tu vois? Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir ou dont on parle pas assez et qui te semble important d'avoir identifié? Dans cette logique un peu d'éducation.
Je pense que on a tendance à dissocier les aspects environnementaux et sociaux. Et en fait, on oublie une chose, c'est que tous les problèmes environnementaux en tout cas les pertes environnementales qu'on subit auxquelles on participe, en fait, ça crée une inégalité sociale majeure qui n'est pas exprimée telle quelle, mais qui est une inégalité intergénérationnelle. Il y a aujourd'hui, on est en train, on le dit avec ces mots-là, plus, de créer un monde qui va être invivable pour nos enfants, etc. Mais il y a une perte de responsabilité individuelle de chacun d'entre nous, dans notre compréhension des inégalités actuelles, mais des inégalités futures. On n'arrive pas à intégrer le temps dans notre pensée. Et en fait, ça fait un lien qui, du coup, est complètement intégré entre les problématiques environnementales et les problématiques sociales. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Hein, je veux dire, toute la partie... On sait que les populations défavorisées sont celles qui sont le plus touchées par les problématiques environnementales, etc. Donc, il y en a d'autres. Mais il y a celle-là qui est justement de penser en générationnel. Et je trouve que on ne l'intègre pas assez dans notre pensée, et notamment dans la place qu'on laisse aux jeunes, dans toute cette réflexion-là. Ils la prennent un peu de force. Mais si ce n'est pas, si on n'a pas une action intergénérationnelle, je pense que ça va créer des problématiques sociales extrêmement poussées et des conflits entre générations. Et puis, on oublie un truc. Moi, ça, c'est marrant parce que maintenant que ça fait un an que quelque part je creuse, je suis beaucoup plus au contact de la compréhension du vivant. Mais c'est magnifique. C'est un truc. Tu vois, moi, je vous donne juste un exemple qui est, je pense, connu pour pas mal, mais quand on creuse le sujet des semences en agriculture, on se rend compte que le système actuel est, pour des raisons historiques de traçabilité des semences, d'identification, d'industrialisation et de sécurité sanitaire, quoi, qu'aujourd'hui, tous les fruits et légumes qu'on mange, ils sont ici de semences annuelles. Donc, semences annuelles, c'est un mot simple pour dire qu'elles sont stériles. C'est-à-dire qu'on est obligé de les racheter tous les ans. Oui.
Voilà. On n'a pas le droit de planter ce qu'on veut. Et...
Exactement. Et on n'a pas le droit de planter ce qu'on veut et de récolter les graines de la plante pour les replanter l'année d'après, etc. Parce que, pourquoi je dis on n'a pas le droit, c'est que si, on a le droit pour ses propres besoins, mais c'est interdit à la vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mange à peu près quelques centaines finalement de variétés qu'on fait pousser et qui sont industrialisées, etc. Mais il existe des dizaines de milliers de variétés anciennes de semences qui ont un potentiel d'adaptation au réchauffement climatique fascinant, puisque ça fait des millénaires qu'elles s'adaptent au réchauffement climatique. Mmh. Elles ont leur propre logiciel d'auto-adaptation, toutes ces semences-là, avec différents types de graines donc qui sont compatibles avec différents types de climats. C'est non seulement elles sont adaptées, mais en plus, il y en a qui étaient déjà sur des climats beaucoup plus secs, etc. Et ces semences-là, eh ben, alors que c'est un réservoir potentiel majeur de solutions pour notre alimentation future, eh ben, on n'en fait rien parce que c'est interdit à la vente, parce que plein de trucs. Donc il y a des gens qui
voilà un bel exemple de nœud.
Voilà, exactement. Donc là, t'as un nœud magnifique et tu te dis mais c'est fou parce que en plus. C'est en France qu'on a le plus de variétés de semences qu'on a continué à faire évoluer en les plantant dans la terre tous les ans. Il y a des laboratoires comme celui de Philippe Desbrosses où on a fait pas mal de trucs comme ça et tout. Et donc, t'as un espèce de patrimoine et de potentiel monstrueux avec cette magie de la nature qui s'auto-adapte, etc. Et on ne capitalise pas dessus. Et donc, effectivement, pour revenir à ce que tu disais au début en disant on cherche tout le temps des solutions technologiques, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel sous-exploité qui est celui de ce que la nature peut nous offrir, nature, tu vois, en juste la comprenant mieux et en nous étant plus en symbiose avec ça et en prenant des paris aussi sur le fait qu'elle a été quelque part qu'elle s'autoprogramme pour arriver à régler des problèmes. C'est marrant de voir à quel point on prend pas non plus ce pari-là, quoi. Je pense que c'est un de nos angles morts.
Pour finir, je sais qu'on va devoir arrêter, est-ce que t'as deux livres que tu recommanderais à tout le monde de lire, romans et essais?
Le livre sur le réchauffement climatique, hein, qu'on vient d'éditer là.
Ok,
qui est
je le mettrai sur le
Commons.
Site.
Ouais, il est accessible à tous, en format numérique, n'hésitez pas. Donc on peut l'imprimer aussi sur demande, mais le but du jeu c'est que tout le monde s'en saisisse. Sinon, moi j'aime beaucoup parce que tu m'as poussé pas mal sur c'était quoi les dérives quelque part du système d'hypercroissance capitalistique. Sans qu'on aille plus loin là-dessus. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, moi, je recommande vraiment le livre de Thomas Philippon, qui s'appelle The Great Reversal. Et en fait, ce qu'il montre, et qui est vraiment fascinant, c'est que il montre que autant les États-Unis, qui étaient historiquement « the land of free markets », donc vraiment ce marché un peu libre, de libre concurrence, etc., eh bien, au fil des ans, c'est devenu un marché oligopolistique, qui est beaucoup moins efficient pour les consommateurs que le marché européen. Donc en moyenne, tous les mois, un consommateur sur un panier essentiel, entre guillemets, américain, donc un consommateur moyen avec un panier, va payer $300 de plus qu'un consommateur européen. parce que il y a eu beaucoup plus de, ils ont été beaucoup plus laxes sur toutes les lois antitrust, etc. Donc ça a créé des conglomérats et que ça crée ce qui est une première dans l'histoire économique américaine, ce n'est pas qu'il y ait des oligopoles, mais c'est que ils durent aussi longtemps et surtout qu'il n'y ait plus de nouveaux entrants possibles.
Mmh. On le voit dans la tech aussi.
Ouais, voilà. Donc ils le montrent dans la tech, mais ils le montrent dans la santé aussi. Ils le montrent dans pas mal de trucs. Et donc c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est un économiste qui a fouillé dans toutes les données, dans tous les modèles, etc. pour montrer comment finalement cette dérive d'hypercroissance capitalistique qui est très en lien en fait avec le politique, comment ça crée une inefficience économique pure. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est uniquement, tu vois, on ne parle pas des dimensions nature-société, on parle que de la dimension économique. Et il démontre que c'est inefficient d'un point de vue purement économique, quoi.
Okay.
Et donc, pour aller plus loin dans cette discussion-là qu'on n'a pas eue aujourd'hui.
On ne peut pas tout balayer. Ouais.
Voilà, exactement. Je vous conseille vraiment les livres de Thomas.
Merci beaucoup, Marie.
Merci à toi.
Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien Devorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismic, qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt.
D'accord, faisons comme ça.
Reboot.